C'est toujours une joie de méditer la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais partager ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Parce que nous vivons un temps où le combat spirituel fait rage, et souvent, il semble que nous ne voyons pas les résultats, les fruits. Et le Seigneur nous a conduits, je pense au dernier dimanche que j'étais ici partagé, je disais que le lundi, nous commencions, vous aviez fini votre jeûne, et nous, on débutait notre jeûne, et durant la semaine, on peut rendre grâce à Dieu parce qu'en terminant dimanche, on a vu la gloire de Dieu se manifester par des réconciliations, par des délivrances, des guérisons. Et c'est un encouragement de voir que le peuple de Dieu a réellement soif d'être dans la présence de Dieu. C'est un temps de mise à part pour Dieu. Et Dieu se glorifie. Alors, j'ai voulu ce matin continuer dans le même esprit, parce que je crois que, bon, je pensais à Noël, c'est un moment de fête, c'est vrai. Mais Noël ne s'arrête pas à la naissance, ça va plus loin. C'est avec ceux qui nous ont précédés, ont lutté, ils ont semé, ils ont prié, ils ont jeûné pour voir dans leur vie la gloire de Dieu. Et ce matin, je propose que nous ayons une méditation dans le livre d'Ezra, Ezra au chapitre 3, versets 10 à 12. Ezra, chapitre 3, versets 10 à 12. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébraient et louaient l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et nous aussi, nous pouvons le dire, car sa miséricorde pour nous dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie et célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et les chefs des familles âgées qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup, on va terminer le chapitre, beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Et le chapitre suivant, chapitre 4, verset 4, « Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d'argent les conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Que Dieu bénisse sa parole. Cette lecture m'a beaucoup interpellé parce que je vois un peuple qui a aimé Dieu, un peuple qui s'est levé pour travailler, pour bâtir la maison de Dieu. Quoi de plus glorieux que quand les frères et sœurs se mettent ensemble pour chercher à élever le nom de Dieu. Nous connaissons l'histoire, ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Dispersés en captivité, certains ont eu l'occasion de faire un retour vers Jérusalem. Le constat est sans appel, ils se rendent compte que le beau bâtiment, le beau temple qui avait été élevé, construit, honoré, n'est plus ce beau temple connu. Mais cela ne va pas arrêter leur vision. Ils vont commencer, quand nous lisons dans Agée, nous voyons comment ils se sont mis au travail, comment l'Éternel a encouragé lui-même ce peuple à se lever et à travailler avec lui. Et ce peuple ne va pas rester les bras croisés parce que ils ont compris que la victoire ne venait pas d'eux-mêmes, mais cette victoire de reconstruire le temple, il fallait que la grâce de Dieu se manifeste. Et on a vu au verset chapitre 4, verset 4, que le travail n'a pas été facile parce qu'il y a eu à un moment donné le découragement pour que cette œuvre ne se poursuive pas. C'est dire que pour nous aujourd'hui, nous qui sommes appelés à marcher avec Dieu, à servir le Seigneur, à travailler dans sa maison, dans son champ, partout où il nous a placés, il nous invite à rebâtir, à reconstruire, à ne pas seulement nous souvenir du passé, nous rappeler qu'il a été fidèle, qu'il a déjà opéré de grandes choses, comme ce temple de Salomon qui était là, qui réjouissait les cœurs pendant un temps, mais ce temple n'était plus en place. Il fallait aller plus loin. Et dans le chapitre 3 que nous avons lu, on voit deux cas de figure. Ceux qui se réjouissaient de se mettre au travail, de pouvoir ensemble reconstruire la maison de Dieu. Ils avaient cette joie, cette ambition de se lever pour le Seigneur, de travailler pour leur Dieu. Mais ils ont compris aussi que cela ne pouvait pas se faire sans passer par le jeûne et par la prière. Parce qu'il y avait une vision à retrouver, la vision de l'œuvre de Dieu, la reconstruction du temple. Le fondement, ils vont commencer, certains chantent, d'autres pleurent, le peuple n'est pas uni parce que là déjà on voit qu'il y a ceux qui sont nostalgiques du passé et il y a ceux qui se réjouissent de ce qu'ils n'ont pas vu mais qu'ils espèrent voir. Mais tous, ils étaient réunis au même lieu. Et ceux qui se souvenaient de la première maison et qui étaient tristes, notre lecture nous dit qu'ils ont crié, ils ont pleuré à chaudes larmes. Mais la joie que poussaient ceux qui étaient appelés à reconstruire était telle que cela couvrait le bruit de la tristesse. Jeûner et prier pour avoir la vision de Dieu. Le prophète Ésaïe va aller plus loin dans cette même pensée où il dit au chapitre 43, versets 18 et 19, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu est un Dieu de commencement, de recommencement. Il est un Dieu qui restaure. Il est un Dieu qui voit notre besoin, notre souffrance. Il est ce Dieu qui connaît et qui regarde qui nous sommes quand nous sommes affligés, quand nous sommes découragés, quand nous ne pouvons plus, mais que nous reconnaissons que notre force ne viendra pas de nous-mêmes, mais de l'Éternel. Cela peut nous amener à chercher à connaître sa vision. Quelle est la vision de Dieu pour ma vie, pour la vie de l'Église, pour le corps de Christ? Ne pas nous arrêter à ce qui est du passé. Malheureusement, on a tendance souvent à réagir quand c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Ah, on n'est pas habitué, on n'a jamais fait ça, on ne faisait pas les choses de cette manière. Mais il y a toujours un nouveau départ. Et ce nouveau départ concerne aussi notre engagement dans le combat spirituel. Peut-être que nous ne sommes pas habitués à lutter, à combattre, mais nous vivons un temps où nous devons être conscients, devons prendre cette conscience que l'ennemi redouble d'efforts pour essayer d'arrêter les projets de Dieu sur notre vie. Mais que pouvons-nous faire? Allons-nous nous asseoir? Allons-nous seulement nous contenter du souvenir du passé, de ce que Dieu a opéré dans nos cœurs? Ou allons-nous aller plus loin avec des cœurs remplis de reconnaissance, sachant qu'il est le maître qui accomplit les projets qu'il a tracés pour chacun de nous? Mais cela va nous conduire à chercher sa face, à nous isoler, à prendre du temps avec le Seigneur, à prendre du temps dans la prière, à rechercher sa face dans la prière, que ce soit en communauté ou individuellement. C'est le chemin où nous pouvons découvrir la vraie vision de Dieu pour chacun de nous et pour l'Église. C'est le vrai chemin pour remporter des victoires. C'est le vrai chemin de libération. C'est le vrai chemin où nous pouvons retrouver l'unité d'esprit. Nous pouvons retrouver la communion ensemble parce que nous sommes dans sa présence. Et dans sa présence, Dieu se révèle, Dieu se manifeste, Dieu se glorifie. Il se laisse voir, il se laisse toucher. Et il glorifie son nom quand le peuple se met ensemble. Ne pensez plus aux événements passés, mais considérez qu'il a un plan, un projet pour nos vies. Du nouveau pour nos vies. Mais cela passera par le combat, par le jeûne et la prière. C'est pour cela que jeûner peut nous apporter beaucoup de bénédictions dans notre vie. Le jeûne et la prière pour préparer l'avenir. Nous allons vers la fin d'une année et un des sujets que nous avons eu dans la prière, c'est que le Seigneur puisse renouveler son engagement en nous pour que nous puissions vraiment tenir fidèle dans notre décision pour lui. La vision de ce qui doit être l'Église. Vivre dans un monde où il y a l'indifférence, c'est seulement par la prière que nous pouvons recentrer ce qui est essentiel, ce qui peut glorifier le Seigneur. Le jeûne et la prière pour retrouver la vision des captifs la passion des perdus. La vision qu'ils avaient, c'était de voir Dieu reprendre sa place. Ils n'étaient pas heureux de voir que la maison de Dieu n'était plus ce qu'elle devait être. Mais ils étaient heureux de savoir que Dieu retrouve encore sa place. Et dans le livre du prophète Agée, il dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Et cela m'a beaucoup interpellé aussi, à savoir que cette gloire n'est pas le bâtiment, mais c'est ce temple que nous sommes. La Bible nous rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que Dieu veut habiter en nous. Et pour que Dieu puisse se manifester, pour que sa gloire puisse se révéler, pour que nous puissions vivre les miracles de Dieu, il faut que Dieu reprenne place, qu'il possède nos cœurs, qu'il remplisse nos vies, et que cette gloire qui vient par le Saint-Esprit, qui remplira nos cœurs, qui remplira nos vies, puisse nous conduire à un changement radical et aussi à pouvoir nous reposer totalement sur le Seigneur. La prière, le jeûne, c'est aussi pour que l'Église qui souffre connaisse la victoire. Nous avons besoin de voir des âmes sauvées. Nous avons besoin de voir le salut entrer dans nos foyers, dans nos familles. Et c'est par le jeûne et la prière que le Saint-Esprit va briser ce qui résiste. Revenons à ce qui est essentiel. La prière, le jeûne, prendre du temps avec le Seigneur. Le jeûne et la prière vont nous permettre de décrocher avec le visible de ce que Dieu a préparé. Ce qu'il a préparé pour nous devient visible si nous sommes dans cette relation avec lui. Sinon, ce sont des choses invisibles, des choses cachées, des choses que nous ne pouvons pas saisir. Le jeûne et la prière vont nous permettre de libérer tous ceux qui sont captifs, tous ceux qui ont besoin de la joie, de la liberté en Christ, tous ceux qui marchent sans espérance, tous ceux qui marchent sans connaître l'amour de Dieu. Mais quand Dieu agit, il n'agit pas seulement avec le groupe, la foule, mais il agit avec chacun individuellement. Quand nous lisons à partir du chapitre 2, nous voyons toute une liste de personnes citées par famille, par tribu et par nom. Le Dieu que nous servons est un Dieu de détail, un Dieu qui prend soin de nos vies ensemble comme de ma vie individuellement. Mais pour cela, j'ai besoin de me tourner vers lui et de demander sa grâce. Nous prions souvent pour les nôtres d'une manière assez globale, générale. Et ce matin, j'aimerais nous proposer que dans ce temps de prière de jeûne, nous puissions avoir des cibles, nous puissions préciser, nous puissions nommer, donner des noms, des visages, intercéder pour ces cas, pour ces personnes, pour ces individus, et dire, Saint-Esprit, touche telle personne. Si c'est dans notre famille, si c'est dans notre entourage, si c'est là où nous travaillons, citons ces noms pour ces personnes et réclamons ces noms au Seigneur. Dans la prière, dans le jeûne, le Seigneur intervient. Il guérit les cœurs brisés. Il console ceux qui sont affligés. Il relève les situations. Et nous pouvons bénir le Seigneur. On a fini ce jeûne de prière. semaine et la semaine, le week-end qui a suivi, j'étais du vendredi au lundi à Rome. Et là où encore j'ai vu une grâce particulière de Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous accompagne, il nous dirige, il nous révèle le cœur de ce qui semble être impossible humainement parlant. Alors que nous étions en réunion, il y a un couple qui est venu, lui, il est italien et elle, elle est africaine, un couple mixte donc. Et dans la prédication, le Seigneur nous a conduits à parler de ce qui n'unit pas, ce qui sépare, ce qui divise, et dans les foyers, et appeler à une réconciliation. Dire qu'avec Dieu, tout est possible. Il est celui qui reconstruit, pas seulement le temple, mais il reconstruit les foyers brisés. Et dans, alors qu'on a lancé l'appel, ce couple s'est avancé et on a pu prier ensemble. Le lendemain, ça c'était le vendredi soir, le samedi, ils sont revenus. Et là, avec des actions de grâce. Parce que le Saint-Esprit les a amenés à reconnaître chacun ce qui n'allait pas et les réconcilier ensemble. Le Saint-Esprit agit aujourd'hui. Mais il nous faut prendre du temps dans le jeûne et la prière, nous séparer de ce qui fait la joie de notre chair, ce qu'on aura pendant ces temps de fête, de réjouissance, de partage avec les nôtres, un plat, une assiette, tout cela est bien, mais chaque chose a son temps. Mais que l'Église de Jésus-Christ revienne sur ce chemin de la prière. Si nous voulons voir de grandes choses se passer dans nos vies, si nous voulons vivre un vrai réveil, si nous voulons voir l'action de Dieu se manifester comme dans les temps anciens, dans les actes des apôtres, eh bien cela est encore possible. Mais le prix qu'ils ont payé a été de se retrouver dans la présence de Dieu. À commencer par les 120 qui se sont retrouvés dans la chambre haute pour prier, pour intercéder, et le Saint-Esprit est descendu. Et à partir de ce moment, ce qui semblait impossible est devenu possible. Tout est possible, nous dit la parole de Dieu. Mais pour cela, nous avons besoin d'unité d'esprit. Peut-être que pour certains, ils vont dire, mais bon, jeûner, prier pour notre temps aujourd'hui, c'est pas possible. Mais j'aimerais dire que c'est possible. Et il y a des résultats, il y a des bons résultats. Il y a beaucoup de fruits quand nous prenons du temps avec le Seigneur. Et je crois que Dieu veut visiter son Église. Dieu veut ramener les cœurs perdus. Dieu veut réconcilier dans l'Église même des cœurs qui se voient, mais qui ne se sont jamais pardonnés et qui s'évitent de foi même. Dieu veut agir pour que la gloire du second temple soit plus importante que la gloire de la première. Que Dieu nous donne de nous approcher de lui tel que nous sommes et de nous laisser façonner par son esprit. Et c'est dans la prière, dans un temps de séparation de ce qui peut nous retenir, que nous pouvons vivre ce miracle de Dieu. Le temps de Dieu, c'est maintenant, et il a besoin que l'Église se mette dans la prière. C'est le chemin pour conquérir, pour gagner, pour chercher ceux qui sont perdus. Délivré de l'emprise du passé, de la peur de l'avenir, de l'inconnu, Dieu réveille l'esprit de son peuple. Au chapitre 1, verset 1, Dieu réveille l'esprit de son peuple. De même que pour Daniel, au chapitre 9, l'exilé je ramènerai vos captifs, dit l'Éternel. Alors que le Seigneur nous donne d'avoir cette vision de la gloire de Dieu qui vient dans son temple. Cette gloire viendra dans la mesure où nous allons chercher. Le réveil, c'est vrai que nous ne pouvons pas provoquer cela, nous ne pouvons pas attirer cela de nous-mêmes, mais nous pouvons contribuer à ce que le réveil se fasse. La prière, le jeûne, la séparation, un temps avec le Seigneur, que je sois seul, que nous soyons ensemble, eh bien, le Seigneur est fidèle pour entendre. Et il nous donnera un réveil puissant qui va changer nos situations personnelles, qui va guérir les cœurs malades, brisés, mais qui va aussi attirer les âmes vers lui. Que le Seigneur bénisse ce temps de la fin où nous allons fêter, que la victoire de Dieu soit notre partage et que nous puissions, au-delà de la naissance de Jésus, nous dire s'il est venu, c'est pour que sa gloire revienne dans son temple, qu'il se glorifie à travers nos vies. Amen. Éternel notre Dieu, ce matin, à l'exemple de ton peuple qui s'est laissé interpeller pour reconstruire, nous voulons aussi nous laisser interpeller par ton esprit. Nous voulons te dire, Saint-Esprit, c'est toi le bâtisseur, tu dis que tu bâtis ton Église. Nous voulons te demander, Saint-Esprit, de venir, d'agir, de changer nos situations, de nous donner la capacité de voir ce que tu as préparé, ce qui semble être dans le secret, que tu ouvres notre vision de ce que nous ne voyons pas, afin que nous puissions te contempler. Je prie, Seigneur, que tu bénisses chacun, alors que nous allons vers la fin d'une année, que ta gloire se manifeste. Que l'année qui va venir soit une année nouvelle en toutes choses. Année nouvelle dans notre engagement pour toi. Année nouvelle dans notre vie de prière, dans la méditation de ta parole, afin que, Seigneur, tu ouvres les cieux pour laisser descendre sur ton Église, sur ton peuple, pour arroser de ta présence et pour relever les défis qui sont les nôtres. Sans toi, nous ne pouvons pas. Mais nous savons que tu es là et nous pouvons compter sur toi. Seigneur, bénis ton peuple, bénis chacun avec ses propres besoins. Relève chaque situation et montre-nous que tu es ce Dieu qui se laisse trouver. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié et que ta gloire descende dans ces lieux. Que ta gloire descende dans ton temple. Que ta gloire descende dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos familles, quels que soient les besoins, quels que soient les problèmes, les difficultés, ce matin, Saint-Esprit agit en profondeur, détrône, brise et libère pour que nous soyons libres pour être des vrais adorateurs pour le Dieu Tout-Puissant. Que la gloire te revienne, Jésus. Amen.